Chapitre 17. Le geôlier de Sauveterre, la veille au soir, en soupant, avait dit à sa femme « J'en ai assez, décidément, de l'existence que je mène ici. J'ai trop peur. On m'a payé pour perdre ma place, n'est-ce pas? Je veux m'en aller. » « Tu n'es qu'un sot, lui avait répondu sa femme. « Tant que monsieur de Boiscourant sera prisonnier, on peut espérer des profits. Tu ne sais pas ce que ces champs dorés sont riches. Il faut rester. » Ainsi que beaucoup de maris, Blangin avait la prétention d'être le maître du logis. Il y criait très fort. Il y jurait à écailler le crépi des murs. Il s'oubliait jusqu'à démontrer à tour de bras qu'il était le plus fort. Seulement, Madame Blangin ayant décidé qu'il resterait, il restait. Et, assis à l'ombre, devant sa porte, en proie aux plus sombres pressentiments, il fumait sa pipe lorsque Maître Magloire et Maître Folga se présentèrent à la prison, munis d'un laissez-passer de M. Galpin d'Avelines. Dès qu'ils entrèrent, il se leva. Pensant bien que Mademoiselle Denise les avait mis dans le secret, il les craignait. Aussi souleva-t-il poliment son bonnet de laine et, retirant sa pipe de sa bouche, « Ah, ces messieurs viennent pour monsieur de Boiscourant » fit-il avec un sourire obséquieux. « Je vais les conduire, le temps seulement de prendre la clé de la cellule. » Maître Magloire le retint. « Avant tout, demanda-t-il, comment va monsieur de Boiscourant ?»« Comme ci, comme ça, » répondit le geôlier. « Qu'a-t-il ?» Et ce qu'ont tous les accusés quand ils voient que leur affaire prend une vilaine tournure. Les défenseurs échangèrent un regard attristé. Il était clair que Blangin croyait à la culpabilité de Jacques et c'était d'un sinistre augure. Les gens qui gardent les prisonniers ont d'ordinaire le flair excellent et souvent les avocats les consultent à peu près comme un auteur prend l'avis des gens du théâtre où il donne une pièce. « Vous a-t-il dit quelque chose ?» interrogea Maître Folga. « À moi, personnellement, presque rien, » répondit le geôlier. Et, secouant la tête, « Mais on a son expérience, n'est-ce pas » poursuivit-il. « Quand un accusé vient de recevoir son avocat, je monte toujours lui rendre une petite visite et lui offrir quelque chose, histoire de lui remettre du cœur au ventre. C'est pourquoi, hier, dès que Maître Magloire a été parti, j'ai grimpé les escaliers 4 à 4. « Et vous avez trouvé monsieur de Boiscourant malade ?» « Je l'ai trouvé dans un état à faire pitié, messieurs. Il était étendu à plat ventre sur son lit, la tête enfoncée dans son oreiller, ne bougeant pas plus qu'une souche. J'étais dans sa cellule depuis plus d'une minute, qu'il n'avait encore rien entendu. Je secouais mes clés, je piétinais, je toussais, rien. L'inquiétude me prend, je m'approche et je lui tape sur l'épaule. « Eh, monsieur !» Christi, il bondit haut comme ça, et se mettant sur son séant, « Qu'est-ce que vous me voulez ? » dit-il. Naturellement, j'essaie de le consoler, de lui expliquer qu'il faut se faire une raison, que c'est bien désagréable de passer aux assises, mais qu'après tout, on n'en meurt pas, et que même on en sort blanc comme neige quand on a un bon avocat. J'aurais aussi bien fait de chanter « Femme sensible ». Plus je lui parlais, plus ses yeux flamboyaient, et sans seulement me laisser finir, « Sortez !» se met-il à me crier. « Sortez !» Il s'interrompit et se détourna pour tirer une bouffée de sa pipe. Mais elle était éteinte. Il la mit dans la poche de sa veste et continua. « Je pouvais lui répondre que j'ai le droit d'entrer dans les cellules quand il me plaît et d'y rester tant que je veux. Mais les prisonniers sont des enfants, il ne faut pas les contrarier. Je sortis donc. Seulement, j'eus soin d'ouvrir le guichet et j'y restai en faction. » « Ah, messieurs, depuis 20 ans que je suis dans les prisons, j'ai vu des désespoirs. Jamais je n'en ai vu d'aussi terrible que celui de ce pauvre jeune homme. Il avait sauté à terre dès que j'avais eu les talons tournés, et il allait et il venait dans sa cellule en sanglotant tout haut. Il était plus blanc que sa chemise et il lui roulait le long des joues des larmes si grosses que je les voyais. » Chacun de ces détails éveillait un remords dans le cœur de Maître Magloire. Son opinion, depuis la veille, ne s'était pas sensiblement modifiée, mais il avait eu le temps de réfléchir et il se reprochait amèrement sa dureté. « J'étais en observation depuis une bonne heure au moins, » poursuivait le geôlier, « quand voilà que tout à coup, M. de Boiscourant saute sur la porte et se met à la secouer et à la taper à grands coups de pied et à appeler de toutes ses forces. Je le fais attendre un peu pour qu'il ne me sache pas si près et enfin j'ouvre en faisant celui qui a monté l'escalier en courant. Dès que je parais, j'ai le droit, n'est-ce pas, de recevoir des visites et personne n'est venu me demander. Personne. Vous en êtes bien sûr ? Très sûr. C'était comme le coup de la mort que je lui donnais. Il se tenait le front à deux mains, comme cela, et il disait « Personne, et j'ai une mère, une fiancée, des amis. Allons, c'est fini. Je n'existe plus, je suis abandonné, réprouvé, renié. » Il disait cela d'une voix à tirer les larmes des pierres de la prison, et moi, ému, je lui proposais d'écrire une lettre que je ferais porter chez M. de Chandoré. Mais aussitôt, entrant en fureur, « Non, jamais » s'écria-t-il, « jamais, laissez-moi, je n'ai plus qu'à mourir. » Maître Folga n'avait pas prononcé une parole, mais sa pâleur trahissait son émotion. « Vous devez comprendre, messieurs, disait Blangin, que je n'étais pas rassuré du tout. La cellule qu'occupe M. de Boiscourant n'a pas de chance. J'y ai eu, depuis que je suis à Sauveterre, un suicide et une tentative de suicide. » Sitôt sorti, j'appelais Frumence Cheminot, un pauvre diable de détenu qui m'aide dans mon service, et il fut convenu que nous monterions la garde à tour de rôle pour ne pas perdre l'accusé de vue une minute. Mais la précaution était inutile. Le soir, quand on monta le dîner de M. de Boiscourant, il était tout à fait calme, et même il me dit qu'il allait essayer de manger parce qu'il voulait conserver ses forces. Pauvre malheureux, s'il n'a de force que celle que lui donnera son dîner d'hier, il n'ira pas loin. À peine avait-il avalé quatre bouchées qu'il fut pris d'un tel étouffement que nous avons cru, Cheminot et moi, qu'il allait nous passer entre les mains, et même je pensais que ce serait peut-être un bonheur. Enfin, vers 9 heures, il était à peu près remis et il est resté toute la nuit accoudé à sa fenêtre. Maître Magloire était à bout. « Montons, » dit-il à son jeune confrère. Ils montèrent. Mais en s'engageant dans le corridor des cellules, ils aperçurent Cheminot qui, de loin, leur faisait signe de marcher doucement. « Qu'arrive-t-il donc ? » demandèrent-ils à voix basse. « Je crois qu'il dort, » répondit le détenu. « Pauvre homme, il rêve peut-être qu'il est libre dans son beau château. » Sur la pointe du pied, Maître Folga s'approcha du guichet. Mais Jacques était éveillé. Il avait entendu des pas et des voix et il venait de sauter à terre. Blangin ouvrit donc la porte et, dès le seuil, « Je vous amène du renfort, mon ami, » dit Maître Magloire au prisonnier. « Maître Folga, mon confrère, venu de Paris avec votre mère. » Froidement, sans un mot, M. de Boiscourant s'inclina. « Je vois que vous m'en voulez, » reprit le célèbre avocat de Sauveterre. « J'ai été vif hier, beaucoup trop vif. » Jacques secoua la tête et reprit d'un ton glacé. « Je vous en ai voulu, » dit-il, « mais j'ai réfléchi et maintenant je vous remercie de votre franchise. Au moins je sais mon sort. Si je passais en cour d'assises, innocent, je serais condamné comme assassin et incendiaire. J'aviserais à ne pas passer en cour d'assises. » « Malheureux, tout espoir n'est pas perdu. » « Si, du moment où vous, qui êtes mon ami, vous ne m'avez pas cru, qui donc me croirait ?»« Moi, » s'écria Maître Folga, « moi qui, sans vous connaître, croyais à votre innocence et qui l'affirme maintenant que je vous ai vu. » Plus prompt que la pensée, Jacques de Boiscourant saisit la main du jeune avocat et, la serrant d'une étreinte convulsive, « Pour cette seule parole que vous venez de prononcer, » s'écria-t-il, « merci. » « Soyez béni, monsieur, de cette foi que vous avez en moi. » C'était la première fois depuis son arrestation que l'infortuné tressaillait d'espérance et de joie. Ce ne fut, hélas, qu'un tressaillement. Son regard, presque aussitôt, s'éteignit, son front devint plus sombre encore, et d'une voix sourde, « Malheureusement, reprit-il, nul désormais ne peut rien pour moi. » Maître Magloire a dû vous dire, monsieur, ma lamentable histoire et mes explications. Je n'ai pas de preuves, ou du moins, pour en fournir, il me faudrait descendre à de tels détails que la justice ne saurait les admettre, ou que si, par impossible, elle les admettait, j'en resterais à tout jamais avili à mes yeux. Il est de ces confidences dont il est interdit de profiter, de ces secrets qu'on ne livre jamais, de ces voiles que, même au prix de la vie, on ne soulève pas. Mieux vaut être condamné innocent qu'être acquitté, infâme et dégradé. Messieurs, je renonce à me défendre. » Pour examiner ainsi, à quelle partie désespérée s'était-il donc arrêté? Ses défenseurs tremblaient de le deviner. « Vous n'avez pas le droit de vous abandonner ainsi, monsieur, » dit Maître Folga. « Pourquoi ?»« Parce que vous n'êtes pas seul en cause, monsieur, parce que vous avez des parents, des amis. » Un sourire d'amère ironie crispait les lèvres de Jacques de Boiscourant. « Leur dois-je donc quelque chose ? » interrompit-il. « À eux qui n'ont même pas eu le courage d'attendre pour me renier que le jugement fût rendu, à eux dont le verdict impitoyable a devancé celui de la cour d'assises, c'est d'un inconnu, c'est de vous, monsieur Folga, que me vient le premier témoignage de sympathie. » « Ah, ce n'est pas vrai !» s'écria Maître Magloire, « et vous le savez bien !» Jacques ne parut pas l'entendre. « Des amis, » poursuivait-il, « c'est vrai, oui, j'en avais au jour prospère. M. Galpin d'Aveline et M. d'Aubigeon étaient mes amis. L'un est devenu mon juge, le plus cruel et le plus implacable des juges, et l'autre, qui est procureur de la République, n'a pas même essayé de venir à mon secours. Maître Magloire aussi était mon ami, et 100 fois il m'avait dit que je pouvais compter sur lui comme il comptait sur moi. Aussi est-ce lui que j'avais choisi entre tous pour m'assister de ses conseils et de son expérience. Et quand j'ai entrepris de lui démontrer mon innocence, il m'a répondu que je mentais. » De nouveau, le célèbre avocat de Sauveterre essaya de protester. En vain. « Des parents, » continuait Jacques, d'un accent où vibraient toutes ses colères. « J'en ai, vous avez raison, j'ai un père et une mère. Où sont-ils, pendant que leur fils, victime d'une fatalité inouïe, se débat misérablement dans les mailles de la plus odieuse et de la plus perfide des intrigues ? Mon père, tranquillement, reste à Paris, tout à ses occupations et à ses plaisirs accoutumés. Ma mère est accourue à Sauveterre, elle y est en ce moment, mais c'est inutilement qu'on lui a fait savoir qu'il m'est permis de recevoir sa visite. Je l'attendais hier, mais le malheureux accusé d'un crime n'est plus son fils. C'est en vain que du fond de l'abîme je l'ai appelé, c'est en vain que je l'ai attendu, comptant les secondes aux palpitations de mon cœur. Elle n'est pas venue. Personne n'est venu. Je suis seul au monde désormais, et vous voyez bien que j'ai le droit de disposer de moi. » Maître Folga n'eut pas l'idée de discuter. « À quoi bon? Est-ce que le désespoir résonne ?» Il dit simplement « Vous oubliez Mademoiselle de Chandoré, monsieur. » Un flot de sang empourpra les joues de Jacques, et avec un long frémissement « Denise » murmura-t-il. « Oui, Denise, » poursuivit le jeune avocat, « vous oubliez son courage, son dévouement et tout ce qu'elle a tenté pour vous. Direz-vous qu'elle vous abandonne et qu'elle vous renie, celle qui, oubliant pour vous toutes ses timidités et toutes ses pudeurs, est venue s'enfermer une nuit dans votre prison? C'est son honneur de jeune fille qu'elle risquait, car elle pouvait être découverte ou trahie, elle le savait. N'importe, elle n'a pas hésité. » « Ah, vous êtes cruel, monsieur !» interrompit Jacques. Et, serrant à le briser le bras de l'avocat, « Ne comprenez-vous donc pas, » continua-t-il, « que c'est son souvenir qui me tue et que mon malheur est d'autant plus affreux que je sais quelle félicité je perds? Ne voyez-vous donc pas que j'aime Denise comme jamais femme n'a été aimée? Ah, s'il ne s'agissait que de moi! Moi, du moins, j'ai une faute à expier. Mais elle, pourquoi, mon Dieu, me suis-je trouvé sur son chemin ?» Il demeura pensif une minute, puis « Et cependant, ajouta-t-il, pas plus que ma mère, elle n'est venue hier. Pourquoi ? Ah, c'est que sans doute on lui a tout révélé. On lui a dit comment je me trouvais au Valpinceau le soir du crime. » « Vous vous trompez, Jacques, » prononça Maître Magloire. « Mademoiselle de Chandoré ne sait rien. » « Est-ce possible ? » ?»« Maître Magloire n'a point parlé devant elle, » ajouta Maître Folga. Et nous avons fait promettre à M. de Chandoré de garder le secret. J'ai soutenu que vous seul aviez le droit d'apprendre la vérité à Mademoiselle Denise. Alors comment s'explique-t-elle que je ne me sois pas disculpée ? Elle ne se l'explique pas. Grand Dieu, me croirait-elle donc coupable ? Vous lui diriez que vous l'êtes, qu'elle refuserait de vous croire. Et cependant, elle n'est pas venue hier. Elle ne le pouvait pas, monsieur. Si on lui a tu la vérité, on a dû la révéler à votre mère. Madame de Boiscoran a été comme foudroyée par ce dernier coup. Pendant plus d'une heure, elle est restée sans connaissance entre les bras de Mademoiselle Denise. Quand elle est revenue à elle, sa première parole a été pour vous, mais il était trop tard pour se présenter à la prison. » En invoquant le nom de Mademoiselle Denise, Maître Folga avait trouvé le moyen le plus sûr, et peut-être le seul, de briser la volonté de Jacques. « Comment jamais m'acquitter envers vous, monsieur » murmura-t-il. « En me jurant de renoncer au funeste dessein que vous aviez conçu, » répondit le jeune avocat. « Coupable, je vous dirai, soit, et je serai le premier à vous fournir une arme. Le suicide serait une expiation. Innocent, vous n'avez pas le droit de vous tuer, car le suicide serait un aveu. » « Que faire ? Vous défendre, lutter. Sans espoir ? Oui, même sans espoir. Est-ce que jamais, en présence de l'ennemi, vous avez été tenté de vous faire sauter la cervelle ? Non, vous saviez cependant que les Prussiens étaient les plus nombreux et que probablement ils seraient vainqueurs. N'importe. Eh bien, vous êtes en présence de l'ennemi et eussiez-vous la certitude d'être vaincu, c'est-à-dire condamné, que je vous dirais encore, il faut combattre. Vous seriez condamné et à la veille de monter à l'échafaud, que je vous dirai toujours, il faut vivre jusque-là, car d'ici là, tel événement peut surgir qui dénonce le coupable. Et dû cet événement ne pas se présenter, je vous répéterai quand même, il faut attendre le bourreau pour protester du haut de la plateforme contre l'erreur judiciaire dont vous êtes victime et une dernière fois affirmer votre innocence. » Peu à peu, à la voix de Maître Folga, Jacques s'était redressé. « Sur mon honneur, monsieur, prononça-t-il, je vous jure que j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout. » « Bien, approuva Maître Magloire, bien, très bien. » « Mais qu'allons-nous tenter ? » demanda Jacques. « Avant tout, répondit Maître Folga, je prétends recommencer, à votre profit, l'instruction si incomplète de Monsieur Galpin d'Aveline. Ce soir même, Madame votre mère et moi partons pour Paris. Je viens vous demander les renseignements nécessaires et aussi les moyens d'explorer votre maison de la rue des Vignes et de rechercher l'ami dont vous aviez emprunté le nom et la servante qui vous servait. » Un grincement de verrou l'interrompit. Le judas pratiqué dans la porte de la cellule s'ouvrait et au grillage se collait le visage rubicond de Blangin. « Monsieur, dit-il, Madame de Boiscoran est au parloir et elle vous prie de descendre dès que vous aurez terminé avec ces messieurs. » Jacques était devenu très pâle. « Ma mère » murmura-t-il. Et tout aussitôt, « Ne vous éloignez pas, cria-t-il au geôlier, nous allons avoir fini. » Trop grande était son agitation pour qu'il pût la maîtriser. « Il faut que nous en restions là pour aujourd'hui, messieurs, dit-il à Maître Magloire et à Maître Folga. Je n'ai plus ma tête à moi. » Mais Maître Folga, ainsi qu'il venait de l'annoncer, était résolu à partir pour Paris le soir même. « Le succès dépend de la rapidité de nos mouvements, prononça-t-il. Permettez-moi d'insister pour obtenir immédiatement les quelques renseignements dont j'ai besoin. » « C'est une tâche impossible que vous entreprenez, monsieur, commença-t-il. « Faites toujours ce que mon confrère vous demande, interrompit Maître Magloire. Sans plus résister, et qui sait, agité peut-être du secret espoir qu'il ne s'avouait pas, Jacques de Boiscoran mit le jeune avocat au fait des moindres circonstances de ses relations avec Madame de Clodieuse. Il lui apprit à quelle heure elle venait rue des Vignes, quel chemin elle prenait et comment elle était vêtue le plus habituellement. Les clés de la maison étaient à Boiscoran, dans un tiroir que Jacques indiquait. Il n'y avait qu'à les demander à Antoine. Il dit ensuite comment on arriverait peut-être à savoir au juste ce qu'était devenu cet Anglais, son ami, dont il avait emprunté le nom. Sir Francis Burnett avait un frère à Londres. Jacques ignorait son adresse précise, mais il savait qu'il faisait des affaires considérables avec l'Inde et qu'il avait été autrefois le caissier principal de la célèbre maison de banque Gilmour et Benson. Quant à la servante anglaise qui avait tenu pendant 3 ans son ménage rue des Vignes, Jacques l'avait prise les yeux fermés sur la seule recommandation d'un bureau de placement de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et jamais il ne s'était occupé d'elle autrement que pour lui payer ses gages ou lui donner de temps à autre quelques gratifications. Ce qu'il pouvait dire, et encore était-ce par hasard qu'il avait appris, c'est que la fille s'appelait Sukey Wood, qu'elle était née à Folkestone, où ses parents tenaient une auberge de matelots, et qu'avant de venir en France, elle avait habité Liverpool, où elle était femme de chambre à l'hôtel Adolphi. Soigneusement, Maître Folga prit note de tous ces renseignements. « En voici plus qu'il ne faut, s'écria-t-il, pour ouvrir la campagne. Je n'ai plus à vous demander que l'adresse et le nom de vos fournisseurs de la rue des Vignes. Vous en trouverez la liste sur un petit portefeuille qui est dans le même tiroir que les clés. Là sont aussi tous les titres et tous les papiers relatifs à la maison. Enfin, vous feriez peut-être bien d'emmener Antoine, qui est un homme dévoué. Certes, je l'emmènerai puisque vous le permettez, dit le jeune avocat. Et serrant précieusement toutes ses notes, « Mon voyage, ajouta-t-il, ne durera pas plus de 3 ou 4 jours, et à mon retour, selon les circonstances, nous dresserons notre plan de défense. D'ici là, mon cher client, bon courage !» Sur quoi, ayant appelé Blangin pour qu'il leur ouvrît la porte et donné à Jacques de Boiscourant une poignée de main, Maître Folga et Maître Magloire se retirèrent. « Eh bien, descendons-nous à présent ?» demanda le geôlier. Mais Jacques ne lui répondit pas. C'est du plus profond du cœur qu'il avait souhaité la visite de sa mère. Puis, voici qu'au moment de la voir, il se sentait assailli de toutes sortes d'appréhensions vagues. La dernière fois qu'il l'avait embrassée, c'était à Paris, dans le beau salon de leur hôtel. Il partait, le cœur gonflé d'espérance et de joie, pour rejoindre Mademoiselle Denise, et il se rappelait que sa mère lui avait dit « Je ne te verrai plus maintenant que la veille de ton mariage. » Et c'est dans le parloir d'une prison, accusé d'un crime abominable, qu'il allait la revoir. Et peut-être doutait-elle de son innocence. « Monsieur, madame la marquise vous attend, » insista le geôlier. À la voix de cet homme, Jacques tressaillit. « Je suis à vous, » répondit-il, « marchons. » Et tout en descendant l'escalier, il n'était préoccupé que de composer son visage et de s'armer de courage et de sang-froid. Car il ne faut pas, se disait-il, qu'elle se doute de l'horreur de la situation. Au bas de l'escalier, montrant une porte, « Voilà le parloir, » dit Blangin, « quand madame la marquise voudra sortir, vous m'appellerez. » Sur le seuil, Jacques s'arrêta. Le portail de la prison de Sauveterre est une immense salle voûtée, éclairée par 2 étroites fenêtres armées d'une double rangée de solides barreaux. Point de meubles, sinon un banc grossier, scellé dans le mur humide et malpropre. Et sur ce banc, en pleine lumière, était assise, ou plutôt affaissée, et comme privée de sentiment, la marquise de Boiscourant. L'apercevant, Jacques eut à peine la force d'étouffer un cri de douleur et d'effroi. Était-ce bien sa mère, cette vieille femme amaigrie, au teint plombé, aux yeux rougis et dont les mains tremblaient ?« Oh mon Dieu » murmura-t-il. Elle l'entendit car elle releva la tête. Et le reconnaissant, elle essaya de se dresser. Mais ses forces la trahirent et elle retomba lourdement sur le banc en s'écriant « Jacques, mon fils !» Elle aussi, elle était épouvantée en voyant ce qu'avait fait de Jacques 2 mois d'angoisses et d'insomnie. Mais déjà, il s'était agenouillé à ses pieds sur les dalles boueuses et d'une voix à peine intelligible. « Me pardonnes-tu, balbutia-t-il, les horribles souffrances que je te cause ?» Elle le considéra un moment avec une expression délirante, puis tout à coup, lui prenant la tête à 2 mains et l'embrassant avec une violence passionnée, « Si je te pardonne !» s'écria-t-elle. « Hélas, qu'ai-je à te pardonner ? Coupable, je t'aimerai toujours, et tu es innocent !» Jacques respira plus librement. À l'accent de sa mère, il comprit qu'elle était sûre de lui. « Et mon père ? » interrogea-t-il. De fugitives rougeurs marbrèrent les joues blêmes de la marquise. « Je le verrai demain, » répondit-elle, « car je pars ce soir avec Maître Folga. » « Quoi, faible comme tu l'es ? Il le faut. Mon père ne saurait-il abandonner ses collections 8 jours ? Comment n'est-il pas ici ? Me croit-il donc coupable ? C'est précisément parce qu'il est sûr de ton innocence qu'il reste à Paris. Il ne te croit pas en danger. Il prétend que la justice ne saurait se tromper. « Je l'espère bien, » fit Jacques avec un sourire forcé. Et changeant aussitôt de ton, Et Denise, demanda-t-il, pourquoi ne t'a-t-elle pas accompagnée ?
Parce que je ne l'ai pas voulu. Elle ne sait rien. Il a été convenu qu'on ne prononcerait pas devant elle le nom de Madame de Clodieuse, et je voulais, moi, te parler de cette exécrable femme. Jacques, mon pauvre enfant, vois où t'a conduit une passion coupable. »
Il ne répondit pas.
« Tu l'aimais ?» reprit Madame de Boiscourant.
« J'ai cru l'aimer.
Et elle ? Oh, elle ! Dieu seul peut savoir le secret de cette âme troublée.
Il n'y a donc rien à espérer d'elle, ni pitié, ni remords ?
Rien. Je l'ai abandonnée, elle s'est vengée. Elle m'avait prévenue. »
Madame de Boiscourant soupira.
« C'est ce que je pensais, dit-elle. Dimanche dernier, alors que j'ignorais tout, je me suis trouvée près d'elle à l'église et involontairement, j'admirais son calme recueillement, la pureté de son regard, la noblesse et la simplicité de son maintien. Hier, quand j'ai appris la vérité, j'ai frémi. J'ai compris combien doit être redoutable une femme qui peut affecter un tel calme alors que son amant est en prison, accusée du crime qu'elle a commis.
Rien au monde ne saurait la troubler, ma mère.
Elle doit trembler, cependant. Elle doit bien imaginer que tu nous as tout dit. Que faudrait-il pour qu'elle soit démasquée ?
Mais l'heure passait et Blangin ne tarda pas à paraître, annonçant à Madame de Boiscourant qu'il lui fallait se retirer. Elle se retira, en effet, après avoir une dernière fois embrassé son fils. Et le soir même, ainsi qu'il était convenu, elle prenait avec Maître Folga et le vieil Antoine l'express de Paris.